de questions, vous vous opposez au vote contre, deux contre, abstention, deux abstentions, approuvé, je vous remercie. Nous allons passer aux délibérations. Premier point, demande de subvention en titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour des travaux de restauration de la façade sud de l'église, pour la DETR 2019. Alors, si tu ne veux pas, je te laisse la parole.
Donc, en définitive, dans ce dossier, comme Denis l'a rappelé, nous avons l'année dernière demandé une DETR pour la dernière tranche de travaux concernant la reprise des passages de l'église. Ce dossier ayant été refusé pour 2018, nous le présentons pour 2017. Nous le présentons à nouveau. 2018, oui, et nous le présentons à nouveau pour le DETR en 2019. Voilà, le dossier reste en échange de voilà, puisqu'il est déjà préparé. Et il n'est pas nécessaire que nous redéposions l'ensemble de nos documents auprès de la sous-préfecture.
Est-ce que vous avez des questions?
Oui. C'est vrai. Ben, nous avons des questions que nous avons posées par écrit avant de venir auxquelles nous n'avons pas eu de réponse.
Alors, je vous avoue, je les ai pas en tête parce qu'on a reçu à peu près une dizaine ou un petit peu plus de mails. On a essayé de répondre au maximum.
Donc, c'est vrai que le mail
donc,
est un peu long, mais
on y répondra. Mais c'est vrai que de quelques jours pour y répondre, on a aussi des sujets d'affaires courantes et urgentes à répondre. Donc, on y répondra au fur et à mesure. En dehors de ça, est-ce que là, à l'instant, vous avez des questions?
Donc moi je vous avais envoyé toute la définition du marché de l'église, trois tranches, le CCAP, le choix de la maîtrise de l'œuvre sur deux tranches, l'an prévu en 2014, enfin etc. Et je demandais qui a estimé le montant de la phase 3 de la maîtrise d'œuvre à 12 661,08 € et qui a estimé ses travaux, la troisième phase, à 158 263,52 €. Et qui décide de lancer de nouveaux marchés dont le montant est supérieur à 90 000 € dans la commune maintenant, après que vous ayez fait changer votre délégation, puisque avant.
Alors, je pense que là, il y a juste là, on ne parle pas de lancer le marché, on parle juste de déposer un dossier pour une demande de subvention.
Oui, mais.
Donc là, la question n'est pas de lancer le marché, c'est la question de déposer de la demande de subvention, qui était le même dossier qu'on avait présenté déjà précédemment et qui n'avait pas été abouti dans la DETR, parce que la DETR, on ne l'obtient pas forcément chaque année.
Tout à fait, ça ne répond pas à ma question. Qui a estimé ses travaux au centime près à temps, la maîtrise d'œuvre au centime près à temps, et est-ce que le marché initial prévoyait ces trois tranches de travaux? C'est tout ce que je demande.
Le marché initial ne prévoyait pas les trois tranches, après c'était une estimation globale qui a été faite dans la réalisation des premiers projets par l'architecte. Donc on se base sur ça, après certainement ce sera affiné.
Alors c'est l'architecte qui a estimé le montant des travaux? C'est M. Blohan?
Oui.
Ah d'accord.
Je vous propose de poser vos votes. Contre. 4 contre. Abstention. Et je vous remercie. Point 2. Validation. Sur le rapport. Non. On prend acte, donc nous prendre acte du rapport d'activité de la communauté de communes Cœur de Garonne pour 2017. Donc, vous avez pu consulter, pour ceux qui le souhaitent, il est aussi consultable en mairie, pour faire une présentation rapide parce qu'il est quand même assez dense. Il rappelle les grands chiffres clés de 2017 et il découpe après l'introduction de présentation par thématique et compétences de l'intercommunalité. Je ne sais pas si vous voulez qu'on présente quelques points ou si il y a des choses, mais c'est suffisamment détaillé pour peut-être pas rentrer nous là dans le détail, ce sera un petit peu exhaustif, sachant que c'est par sujet d'intérêt particulier pour chacun.
Oui, en principe, il est tenu à disposition de tous les.
Il est à disposition de tous les vous avez vu la voix, et c'est vraiment par thématique et par compétence.
Oui. Voilà. Moi, je trouvais que ce serait intéressant de le publier sur le site internet de la commune.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a tellement de choses, il y a plus de 150 pages, il y a tellement de travail. Et il y a tellement de repères sur tout ce qui se fait et de chiffres que vraiment ça mériterait que les mémoires de la commune se documentent.
Tout à fait.
Ceux qui sont intéressés.
Là-dessus, vous avez entièrement.
En tout cas, bravo pour le travail. 156 pages comme ça, avec autant de précisions et autant d'informations surtout. C'est bon.
Donc, si il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote.
En vote pas.
On vote pas.
Non, on prend
Vous avez raison. Merci. Mise en place du procès-verbal électronique. Donc, on souhaitait vous présenter et soumettre à votre vote la mise en place du procès-verbal électronique qui est destiné au remplacement du récit de la contravention papier. Donc, vous avez une note plutôt détaillée. C'est pour la police municipale. Donc, en fait, c'est juste pour remplacer le papier par l'électronique. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus pour simplifier les procédures. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur ça.
Moi, j'aimerais. Bon, je ne sais pas combien il y a de PV sur.
Aujourd'hui, il y en a.
Quelle est l'utilité d'avoir ça?
Alors, les PV qu'on fait, c'est essentiellement.
Je l'ai lu.
Oui, oui, c'est pour ça que je ne vous en fais pas la lecture exhaustive.
Donc, si met 10 PV dans l'année.
Oh non, il n'y a pas de PV dans l'année.
Oui, mais bon, si met 10 PV dans l'année, ça vaut combien ce matériel? Je ne sais pas. C'est pris en charge à 50%, c'est ça?
Oui, il y a une prise en charge. Il y a une certification au niveau administratif. Les PV qui sont mis systématiquement, c'est essentiellement lorsqu'il y a des personnes qui se garent sur les places handicapées. Ça, c'est la politique de la ville qui perdure et qui paraît essentielle. Aujourd'hui, c'est le cas. Voilà. Après, dans l'avenir, on verra l'emploi qu'on en fera. Mais aujourd'hui, c'était pour simplifier le temps qu'on y
passe. On ne va pas chipoter à 100 euros près, mais le coût de l'entretien de ce système-là, c'est combien à la charge de la commune?
Alors, l'acquisition, c'est 1900 euros, mais là, il y a à hauteur de 50%. Et après, il y a une maintenance qui est à hauteur de 356 euros TTC.
Par an?
Oui. Voilà.
Très bien, merci.
C'est un gain de temps et de modernité et d'efficacité.
C'est aussi une demande des services.
Et c'est aussi une demande des services.
Voilà, il faut faire voter.
Je vous propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 4, convention d'implantation de station météorologique automatique. Donc, dans le cadre du réseau climatologique de l'État, l'observation quotidienne de données météorologiques était jusqu'à présent effectuée par la gendarmerie de Lyon sur le site même de la gendarmerie. Donc, elle expose désormais la station météo ne peut être entendue sur le site de la gendarmerie quand il s'agit d'une enceinte militaire. En conséquence, j'informe l'Assemblée de la demande émanant de la Météo France relative à l'obtention d'une autorisation d'implantation d'une station météorologique automatique de mesure pluviométrique et thermométrique sur une parcelle communale située route de Saint-Martin.
À côté de la pompe de relâche.
Oui, à côté de la pompe de relâche. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? C'est juste un déplacement et pour des raisons liées à la nature du site de la gendarmerie.
Elle sera protégée,
ce sera protégée.
Comment ça marche?
Ce sera protégé.
Exactement comme la station à côté. C'est eux qui font le travail, de toute façon. C'est
sera grillagé, quoi.
C'est ça. Une petite clôture périphérique, juste pour pas qu'on accède au matériel météo.
Et donc, cette occupation donnera lieu à un versement annuel d'un loyer de 150 euros hors taxe. S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de procéder au vote. Contre, abstention, approuvé, je vous remercie. Nous passons au point 5, avec les amendements sur la rue du Carré. Je crois que c'est peut-être le premier thème.
Bon, on a voté ensemble le dossier de la rue du Carré, donc on avait sous les yeux, je ne ferai pas ce que je veux. Juste, ce qui est un motif dans la dernière tranche de travaux que nous avons fait, c'est la plus-value qui a été totalement sur les réseaux, le réseau d'eau pluviale, par la rencontre lors au moment des travaux d'une énorme poutre béton qui se situe juste en face de la halle, côté de la pharmacie, de l'ancienne pharmacie, et qui, elle, a occasionné un changement complet d'appréciation du réseau d'eau pluviale de ce côté-là, et notamment de garder en aérien les écoulements d'eau sur cette partie-là. Donc il y a création d'avaloirs, création de transferts d'eau, etc., etc. C'est quand même une somme relativement conséquente qui nous impacte un petit peu puisqu'elle se monte à 6 800 euros sur 77. Et donc il y a impacté là aussi Donc pour un montant de 830,15 € par taxe, l'approuvé la conclusion de l'avenant numéro 3 au bon numéro 2 pour 6 899,77 € par taxe et de l'autoriser à signer les avenants 3, numéro 3 au bon 1 et au 2 dans le cadre des travaux de réaménagement de la même
carte. Est-ce que vous avez des questions?
Par principe, nous voterons contre parce que nous ne sommes pas du tout informés de l'évolution de ce marché. Ce sont des avenants en permanence, on arrive à 1 000 000, mais ça continue, on vote. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on a payé 7 400 € pour le trottoir devant la boulangerie, en plus du trottoir. 7 400 €, et le désamiantage, c'est quoi, 9 000 €, c'est plus cher que ce que vous avez donné tout à l'heure. Plus-value. Ce sont deux choses que j'ai relevées comme ça, hein, c'est pas.
Voilà. Ce sont des dossiers dont on a déjà parlé, mais puis on va en reparler comme on fait. Le deuxième avantage, au moment de la démolition et de la dépose des trottoirs sur la dernière tranche de travaux, nous avons rencontré, malheureusement pour nous, des évacuations d'eau pluviale en amiante de ciment, et donc ce qui a nécessité, bien entendu, la mise en place.
Et le trottoir alors devant la boulangerie?
Et le trottoir, voilà, c'est l'aménagement du passage piéton à cet endroit-là qui a nécessité justement un changement complet, puisque bon, normalement on aurait dû avoir un trottoir de 1,40 m de large pour un trottoir péréen. Et l'aménagement de l'écluse et du passage piéton, c'est-à-dire de la traversée là où elle se fait de manière usuelle, a nécessité un aménagement de ces trottoirs.
Oui, mais si je pose la question, c'est parce que, bon, on n'est pas informé de grand chose, mais on s'était aperçu quand même que ce trottoir, il a fallu le démolir après l'avoir construit. Alors pourquoi l'a-t-on démoli et pourquoi y a-t-il une telle plus-value maintenant?
Alors, il y a deux choses différentes. Si vous voulez, au moment de la création de ce trottoir, quelques individus mal intentionnés ont donc circulé sur les travaux qui venaient d'être réalisés. Donc ce trottoir-là a été démonté et repris par l'entreprise sans frais supplémentaires. Mais ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec les travaux et l'adaptation pour le passage piéton.
Et alors chaque fois qu'il y a un avenant qui arrive, le maître d'œuvre regarde tout ça, contrôle.
Pardon, c'est celui qui les propose.
Ah, c'est le maître d'œuvre.
Je ne prendrai pas l'initiative de Mme Maury de dire que pour être en conformité sur les passages PMR, piétons, les trottoirs, etc., je ne prendrai pas l'initiative de dire à l'entreprise, mais faites-moi ça et voilà, vous m'envoyez le devis, ça ne marche pas comme ça.
Oui, mais c'est quand même l'entreprise qui chiffre le montant des travaux.
Mais c'est l'entreprise qui est titulaire du marché.
Oui, donc c'est l'entreprise qui dit, voilà, pour faire ça, j'ai besoin de 9 000 € de plus ou de 8 000 € de plus.
Non, en fait, le maître d'œuvre propose une modification, il me la propose à moi, il la propose à l'entreprise qui la chiffre, et après on accepte ou pas les modifications proposées par le maître d'œuvre. Mais c'est le maître d'œuvre.
Bon, ça revient à ce que je dis, c'est quand même l'entrepreneur qui fait la facture.
Il
faut forcément faire une question. Le maître d'œuvre propose.
À partir du moment où il fait les travaux, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas à la facture.
Je ne vous demande pas ça, monsieur Lécussin. Je vous demande comment ça s'est passé devant la boulangerie.
Mais je vous le dis.
Je pense que là, c'est terrible de reprendre les bases de ce qui a marché et comment on fonctionne sur le devis, sur qui est les factures. C'est toujours les factures. Je pense que là-dessus, si vous voulez, on pourra se voir à part.
Je vous propose de
passer votre, par contre, on pourra échanger et reprendre en plus comment ça fonctionne si vous souhaitez.
Il y en a des tonnes d'avenants et il y a des moins values aussi. Je l'ai regardé,
il y
en a 4 pages. Il y a des plus-values et des moins
values. Madame, tout est compris. Vous avez tout.
Oui, voilà. Donc, est-ce qu'on pourra avoir quand même une réunion avec vous pour que vous nous expliquiez vraiment ce qui s'est passé? Ça fait 10 fois que je la demande. Moi, il ne me suffit pas d'aller voir des tonnes comme ça de, hein, sans avoir suivi le marché avec vous. Et c'est vous qui êtes quand même l'adjoint d'un genre de marché public. Je suis désolée.
Vous reprenez le compte rendu de la dernière. Du dernier conseil municipal, Madame Maury.
Mais oui, mais moi, je vous ai proposé
oui? de vous recevoir.
Oui.
Vous ne m'avez pas contacté, donc je ne pouvais pas imaginer venir vous inviter à passer à mairie pour qu'on fasse un projet de chantier. Donc, quand vous voulez.
Je pense qu'on va faire le débat là-dessus parce que vous proposez régulièrement
rendez-vous
et régulièrement il y a une fin de
non-recevoir
de votre part.
Donc, je pense que il n'y a pas de fin de non-recevoir. Je vous demande de retirer ce que vous venez de dire, Madame le maire. Vous retirez ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de fin de non-recevoir. Si vous voulez que nous communiquions au mieux moins nos fins de non-recevoir, nous les communiquerons. Voilà.
Très bien. Et, oh. Alors, je vous remercie. Normalement, vous avez voté contre ce que vous avez
dit
au départ.
C'est-à-dire
ils ont annoncé qu'ils votaient contre. Donc j'ai noté qu'ils votaient contre.
Bien sûr que...
Je vous propose de passer au point 6. Annulation d'un titre de recette sur l'exercice antérieur, significatif 4, obligé d'annuler.
Vous avez compté 4.
Oui, j'ai compté 4 l'autre.
Non, compte.
Donc sur l'exercice numéro 4, obligé d'annuler la 14 du fonctionnement. Donc dans la cadre de groupe de bois, un titre de recette avait été émis pour un montant de 1 510 € à compte de bioénergie. Faire la coupe de bois pour les parcelles sur la forêt communale. Après des relances et des demandes de notre part, la coupe n'a pas été exécutée par l'entreprise Bioénergie, donc il faut maintenant annuler le titre de recette que nous avons émis. Donc c'est juste du tout comptable.
Vous payez, excusez-moi, vous payez toujours avant?
On paye par an. Là, c'est un titre de recette. C'est-à-dire que comme c'est lui qui l'a bénéficié,
ça a été payé en 2017. Ça a été payé en 2017.
Non, c'est le titre de recette qui a été mis.
Ça y est, sur les dépenses de 2017, c'est enregistré.
Oui, c'est enregistré.
Voilà, il y a un bon d'euros, il y a eu un appel de
oui.
Hein, et c'est enregistré sur le...
Mais c'est exactement ça. Et du coup, on émet un titre.
Oui.
Mais qui, comme la personne, on l'a c'est pas nous qui payons, c'est lui qui doit nous payer. Puisqu'en fait, c'est lui qui va avoir le bénéfice de la coupe du bois. D'accord. Et comme il n'a jamais coupé le bois, bah, il ne nous a pas payé. Et donc, du coup, bah, il ne doit pas, comme il n'a pas eu le bénéfice, puisqu'il n'a pas coupé, bah, du coup, il faut qu'on annule cette demande de recette. C'est un peu mathématique.
C'est une provision, quoi, que vous avez créée.
Non, c'est pas une provision.
C'était une ressource.
Une provision, c'est
oui.
Là, c'était en fait pour une recette. Et c'est un peu plus la complexité de la comptabilité publique, c'est qu'on émet souvent la recette avant même de l'avoir perçue. C'était des difficultés qu'on pouvait rencontrer, notamment au CIVOP, par rapport à l'émission des factures. Pour la cantine et qui n'était pas toujours payé. Et donc, du coup, ça crée un déséquilibre entre nos réductions touchées et la réalité de ce qu'on touchait avec les impayés. Enfin, ça revient là un peu à la même chose, sauf qu'il n'a pas réalisé le travail pour lequel il aurait dû nous payer, puisqu'il n'a pas eu le bénéfice du bois. Et donc, du coup, il faut annuler ce type de recette. Voilà, c'est juste une question mentale. Pour 1 500 €, ça ne va pas impacter le budget, mais par contre, il faut quand même être sincère dans la réalisation du budget.
Oui, mais moi je vais quand même rebondir sur ce qu'a dit Madame Monteau, puisque nous avons le courrier quand même de l'ONF ici. Hein. La coupe de bois, elle a été décidée sur une vente de gré à gré le 30 mai 2017. Mm-hmm. Et la personne avait, le SRA et le Bio-Bois Énergie, avait jusqu'au 31 juillet 2018 pour réaliser la coupe et emporter le bois. Mm-hmm. Là, d'accord. Sauf qu'ils ont reçu la facture pour payer le bois en mai 2017. Alors, est-ce qu'on ne pouvait pas attendre un petit peu de voir si, avant de lancer le bordereau de paiement? Je ne sais pas, mais on est en décalé. Je ne sais pas.
Je pense que là, on est sur des problèmes de procédure. Après, ceux qui gèrent ça, c'est ONF. Pour autant, honnêtement, en mai, juillet, je pense qu'à un moment aussi, il fallait aussi faire avancer l'entreprise pour qu'elle s'exécute, puisque quand même, elle s'était engagée à le faire, ça n'a pas été fait. Donc, c'était aussi.
Non, mais là, elle est sanctionnée, l'entreprise, puisqu'on lui dit, vous laissez le bois et vous n'aurez plus le bois. Elle a dépassé le délai, c'est l'ONF qui sanctionne. Mais la facture de la mairie, elle est partie un an avant. C'est-à-dire que le gars, il avait
un an. Non, elle n'est pas partie un an avant.
Mais comment elle n'est pas partie en avant.
C'est 2017.
Attendez.
C'est jusqu'à juillet 2017 et c'est en mai 2017.
C'était jusqu'à juillet 2018.
Je pense que là, il faut aussi reprendre la comptabilité publique pour en échanger avec vous. Si vous voulez, on échangera là-dessus, mais on ne va peut-être pas reprendre les bases à chaque fois. Je vous propose de procéder au vote contre, abstention, abstention.
Combien d'abstentions ?
Non, mais c'est... Excusez-moi, je suis désolée,
je reviens. Excusez-moi, parce qu'on vote très vite pour passer sur des problèmes. Moi, je ne suis pas d'accord pour passer sur des problèmes. On se voit une fois tous les deux mois, on ne se voit jamais. On passera sur des problèmes comme ça. Le 16 juin 2017, la commune a émis un titre de recette de 1 510 € à l'encontre de Bioénergie Bois, suite à un marché de gré à gré signé le 30 mai 2017. Et cette vente devait être réalisée, la coupe devait être réalisée le 31 juillet 2018, dernier délai. Et maintenant, on se retrouve en train d'annuler une facture qui est partie un mois avant, un an avant, attendez.
Je pense que, pour le coup, je n'ai pas les dates en tête, mais vous ne sachez pas que je sais que quand la personne a été retenue et mandatée, nous, il y a une procédure qui est mise en place.
Il y a une procédure.
Après, la personne a été en effet souffrante, donc ça s'est étiré dans le temps, on lui a laissé des délais supplémentaires, et à un moment, on a mis un ultimatum en disant si vous ne faites pas le coupe à ce moment-là. J'ai un peu de mal à comprendre, en fait. Il y a un problème dans la procédure d'appel de titre, mais je pense que c'est assez peu d'objets. Après, il faut savoir qu'on a aussi soumis à des pénalités l'entreprise. Pour du coup, parce que ça pénalise, vous dites que ça pénalise l'entreprise,
ça
pénalise
c'est pas normal. L'entreprise. Ça, c'est normal. Mais là, maintenant, voilà, nous, on est en train d'annuler une facture qui est partie il y a un an. C'est bien ce que je disais.
Et donc, pour un titre de 2 500 €, il a des pénalités de 1 000 €. Je pense qu'à un moment, enfin, je vois pas où est l'objectif du débat et quelle est l'importance.
Le problème, c'est qu'il y a d'autres problèmes, il y a d'autres soucis, Madame le Maire. Je suis désolée. Alors, je vais vous dire, la société Aragon a été payée deux fois sur production d'une même facture pour mise en sécurité de l'église et du même montant. Personne n'a réalisé qu'on avait payé la même facture deux fois, et même la société Aragon n'a pas réalisé qu'on lui avait payé la facture deux fois. Alors, qu'on me dise qu'il n'y a pas de problème, qu'on me le dise, on me met une réunion de la commission des finances demain. Si elle avait été hier, on en aurait parlé hier, elle est demain, j'en parle aujourd'hui. Même chose pour M. Laurent.
Maintenant, je vous dis sur ce point-là, je ne dois pas vous parler.
Mais c'est la commune qui fait des erreurs, c'est pas les personnes, hein. Attention.
C'est
personne d'autre.
Donc sur ce point-là, qui est bien juste une rectification comptable, vous avez passé au vote. Contre. Abstention.
Abstention.
Quelle abstention? Approuvé, merci. Passons au point 7. Autorisation d'engagement des dépenses d'investissement préalablement au du budget de la commune. Donc comme à chaque année, avant qu'on puisse voter le budget qui arrive souvent en mars, voire en avril, il faut que vous puissiez m'autoriser à engager 25% des dépenses, enfin c'est le seuil maximum, pour pouvoir faire face aux dépenses courantes d'investissement avant le vote du budget. Est-ce que vous avez des remarques? Je vous propose de passer au vote. Contre. Abstention. Approuvé, je vous remercie. Le point 8, garantie d'emprunt, réaménagement de dette auprès de la Caisse des dépôts, des consignations. Donc, la SAHM est chalée, négocie le nombre de ses emprunts, je crois plus de 96, et deux nous concernent qui étaient sur les opérations de la cité Sagazan, puisque la cité Sagazan s'est fait en plusieurs phases, et donc nous demande de donner notre accord, puisque nous sommes caution avec le département, de ces emprunts. Vous avez l'ensemble du détail. Est-ce que vous avez des questions?
Le montant reste le même?
Oui, je pense que c'est juste un
détail. Le montant.
Parce que niveau intérêt, il va y avoir plus d'intérêt, je suppose.
Avec la baisse des taux, je pense pas.
Parce que la dernière fois qu'on avait voté pour une renégociation de prêt, vous nous aviez dit exactement en quoi ça consistait et de combien serait le montant de la caution si on devait payer ou si on devait. Voilà. Et comment le
On l'avait fait pour l'EHPAD. On l'avait fait pour l'EHPAD, pour l'OPH.
Oui, je sais.
On avait rectifié le... Voilà, et on nous avait dit, ça fait maintenant 20 ans ou 30 ans où le taux a changé, et donc, ça fera un prêt d'un montant de au lieu de... Voilà.
Alors là, je vais vous dire ce que vous avez dit. Normalement, ça ne bouge pas pour nous au niveau de notre engagement. C'est juste qu'on accepte qu'ils puissent renégocier leur prêt.
Oui, mais il faut quand même accepter ce porte-caution. Ce porte-caution sur quelque chose.
J'ai pas dit
qu'on ne devait pas se porter caution.
Oui,
il doit y avoir quelque chose qui dit on se porte caution pour une durée de temps, sur une somme de temps. Voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on est commune, on n'est pas. C'est pas. Voilà.
Donc, je vous lis les éléments qu'on a, c'est une réclamation qui porte sur deux livres d'emprunt pour un montant de 75 000 euros, 75 933,15 euros, qui correspond à une quote-part de garantie de 30%. Le complément est garanti par le conseil départemental, comme je vous le disais tout à l'heure.
Et c'est le même montant qu'il y avait avant?
En fait, c'est juste la notification des modalités financières, et en fait, il faut juste réitérer la garantie, puisqu'en fait, eux, ils renégocient avec tous leurs partenaires.
Donc on étale le prêt et en bénéficiant d'une baisse du taux du livret A, on paiera la même chose. Enfin, si jamais...
En fait, c'est ça. Oui, c'est une réitération. Notre garantie, elle est le même temps. Je vous propose de passer au vote. Contre. Abstention. Deux abstentions. Approuvé, je vous remercie. Donc, je vais laisser la parole pour les trois prochains points à Tranchant.
Donc, point numéro 9, subvention exceptionnelle à l'association de sport complet. Donc, madame la première a appliqué une subvention de montant de 1 800 € lors du 2018 concernant que cette association a connu des résultats sportifs très significatifs qui ont engendré des frais de personnes émergentes liés au classement national. Il est proposé de créer une subvention exceptionnelle de 400 euros. La demande sera reconduite sur le compte 6574, subvention à temps d'affectation. Elle est affectée dans le compte 6574, budget communal, subvention de fonctionnement d'association et aux autres personnes non appelées, et sera versée à la réception notificative de déplacement.
Une subvention exceptionnelle, c'est fait en règle générale pour finir de boucler l'année.
Non.
La subvention exceptionnelle, elle est faite pour boucler l'année. Pour que l'association puisse boucler l'année. Là, on est à 15 jours de la fin de l'année. Donc, je pense que l'ASB, il n'y a pas de tournoi, il n'y a rien de prévu là, d'ici la fin de l'année. Certainement, mais en fait, je pense qu'ils ont les moyens là, de finir l'année, de leur trésorerie. Donc, moi, je serais d'avis plutôt de donner ces 400 euros, si le montant satisfait tout le monde, en début d'année, en avance sur subvention, et éventuellement de revoir le montant annuel versé au budget, en fonction de leurs résultats, etc. De leur,
c'est-à-dire, au lieu de le verser en fin d'année, au lieu de le verser maintenant, le verser en prochaine.
C'est une avance sur subvention de l'année 2019.
Alors, c'est par rapport aux résultats.
Parce que comment il justifie, à l'heure actuelle, comment il justifie cette demande?
Alors, après, juste pour vous dire, les subventions exceptionnelles, ce n'est pas forcément pour finir l'année, et les subventions finir l'année, ça peut être aussi parce qu'elles ont eu des bons résultats qui les ont amenés à faire face à des compétitions qui les amènent loin et des frais supplémentaires. Ça peut être plusieurs raisons différentes.
Pas du tout sur l'idée du bouclier obligatoire, qui d'ailleurs, en partie, comme on l'a dit au début, n'a jamais été d'envisager une subvention exceptionnelle uniquement pour boucler une situation critique. Je prends l'exemple de l'ensemble local de la Mure, par exemple, qui a eu un matériel musical au kit de Verbal, qui a dû le remplacer au pied levé, on a choisi de les accompagner, alors que leur trésorerie pouvait encaisser ces différences. On a choisi d'être là, présent, pour supporter ce coût-là, quitte ensuite, on est bien prêt à renégocier les subventions pour les associations ensemble. C'est pas du tout pour finir. Enfin, en tout cas, on n'a pas du tout, politiquement, le même positionnement par rapport à ça.
Donc ces 400 euros, ils sont justifiés comment?
Ce besoin de 400 euros. Déjà, les remplacements, ils sont montés par rapport à ça. au fait qu'on a discuté, donc ils font aussi de leur côté un effort, c'est-à-dire qu'on a discuté entre nous au niveau de l'ASB qui a des, par exemple, des cotisations très basses. Ils ont aussi décidé, par rapport à ce classement, donc, d'augmenter les cotisations. Il y a un travail d'ensemble qui est fait et on les accompagne parce qu'ils ont, voilà, parce qu'ils sont performants, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils s'investissent, ça paraît logique.
Ils ont de bons résultats et qui les amènent assez loin au niveau géographie et trajet.
Oui, mais est-ce qu'il ne serait pas bon de revoir la subvention annuelle dans ce moment-là?
Ça, c'est une question qu'on peut
faire. Ça, je pense que ça doit être débattu en commission, en effet.
Voilà, mais qui n'est pas logique. Je dis effectivement, est-ce qu'on valorise leur travail au cours de la saison précédente qui les amène de national en national? Je pense que oui. On pourra en concurrence une partie des résultats, ce qui a été la politique qu'on a menée sur les autres, sur le curling bâton, sur le ping-pong, sur d'autres associations, tout simplement.
Alors moi je vais peut-être aussi parler, parce que comme j'ai pas eu les dossiers des autres, c'est pas grave. Je rejoins Madame le maire quand elle dit c'est pas que pour finir l'année, ça peut être aussi pour une manifestation particulière qu'on a budgétisée et pour laquelle on n'a pas assez d'argent. Donc après l'attribution de la subvention, on doit faire un état de ce qu'on a payé. En revanche, moi je veux bien entendre que l'ASD ait mérité cette subvention parce que justement elle est arrivée en première.
National 1.
En National 1, hein, c'est-à-dire au niveau de la France entière, elle a monté des
catégories.
Alors, en France, elle a monté en France.
Oui, non, mais elle a monté des mais non, en sport, ce n'est pas des échelons, c'est des
catégories.
Bon. Elle monte en National 1, voilà, d'accord. Et c'est une association qui. Fait beaucoup de travail sur la commune, en ce sens qu'elle accueille aussi des enfants des écoles et qu'elle accueille aussi des handicapés. Alors moi, je veux bien dire que...
Continue.
Elle fait des concours pour l'handicap, c'est bien ça.
Alors, c'est la GIH qui utilise les
locaux. Oui, qui travaille avec elle.
Et ils partagent, ils ont leur propre...
Ils
participent même avec l'outil donc, qui est le boulot de manière à entraîner et à participer au niveau du sport, du sport handicapé, du sport handicap, mais c'est pas une AMP qui est sûre par rapport à ça.
Oui, mais en fait,
je comprends que
c'est toujours. Je pense que ça, c'est le débat qui doit avoir lieu dans la commission association et pas au sein du conseil municipal, même si on fait tous le travail que font nos associations et pas que l'ASB, et c'est pour ça aussi.
On a beaucoup encensé l'ASB en disant ils ont un national 1, ils ont les aides 1, ils ont... Mais je trouve que la subvention versée, elle est méprisable, vu ce qu'on vient de dire. Parce que si c'est pour ça, 400 euros, je suis désolée, on n'a pas du tout augmenté la subvention de l'ASB depuis 3 ans. Je finis, s'il vous plaît, parce que j'ai le droit de parler en étant démocratie. Voilà. Est-ce qu'on est en démocratie, Madame le maire? Voilà. Donc, est-ce que je peux m'exprimer? Je vous remercie. Merci. Donc, on est à 400 euros. On n'a jamais augmenté la subvention de l'ASB depuis 3 ans, alors qu'elle est montée en National 1. Et l'année dernière... Quand le SCR est monté en Pro D2, ce qui est encore plus pour rien, voilà, on a doublé la subvention. Et non seulement on a doublé la subvention, mais on a l'année suivante mis la subvention à plus, c'est-à-dire on a doublé de nouveau la subvention. Alors moi je trouve que
non.
Non, on a mis une avance sur subvention, une subvention exceptionnelle pour doubler, et l'année après, on a mis à 23 000. J'ai pas encore fini, et je suis désolée. Donc, ce qui serait bien, c'est que quand même la commune de Riem reconnaisse que cette association fait le maximum pour aller, hein, et que tout le monde est content à Riem. Voilà, c'est ça, et le but, en fait, c'est ça. Là. Et voilà, et c'est bien. C'est bien.
Monsieur Armandé, lors de l'Assemblée générale, je vous présente la subvention. subventions ordinaires. Donc il y a une valorisation chaque année de leur travail, comme on l'a fait au niveau de tous les clubs.
Oui.
Quand le Turing Bâton, par exemple, reçoit un super bon résultat, une subvention de 1 000 euros, alors qu'il a touché 900, on demande 50%. Donc si tu veux ce travail-là, il fait de la même manière. Est-ce qu'il faut transformer ça, comme le suggère M. Arnaud, dans son manuel, sur une subvention pérenne? Là, le débat sera ouvert effectivement le prochain, mais on les accompagne. Ce que je propose maintenant, parce qu'on a encore deux autres axes.
Oui, non, mais je voulais finir par ça, je voulais finir par ça, comme tu viens de le dire, et comme Mme Monto l'a dit, l'année prochaine, il faudra augmenter la subvention de l'ASB, parce qu'il est quand même anormal que la commune paie moins de subventions que le département et la région pour cette association. Je suis désolée, mais je le dis comme je le pense. Voilà. Hein? Ah oui.
Qui est contre?
Moi, je voudrais plus, me fait beau.
Est-ce que tu es contre ou pas?
Ben, je suis contre parce que je voudrais plus. Est-ce qu'on pourra l'écrire?
Qui s'en fout? Contre? 4, 2, 3 contre? Abstention. Approuvé, merci.
C'est une excellente volonté.
3 contre et on passe au point 10. Subvention exceptionnelle de l'association RACER.
Donc, subvention exceptionnelle de l'association RACER. Donc, aucune subvention n'a été accordée à l'association RACER jusqu'à présent, notamment au niveau du BD 2018. Concernant cette association pour promouvoir une manifestation culturelle, participation à la sonorisation. Événement de notre association, il est proposé une subvention exceptionnelle de 300 euros. La dépense sera prévue sur le compte 6574 et affectée au même compte du budget communal. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, 400 euros pour la SIP, 300 euros pour l'ARCEN, c'est bien. Moi, je n'ai pas de dossier pour l'ARCEN, je n'ai pas de vote de
vote. D'accord. Donc, je propose de passer au vote, qui est contre.
Pourquoi tu ne m'as pas envoyé le dossier?
Je pense que ça vous changera. Donc deux contre et une abstention.
Oui, je m'abstiens parce qu'on n'a rien. On n'a rien.
Non, deux contre et deux abstentions.
Dernière subvention exceptionnelle à l'association Pétanque Sportive Lilloise. Donc, une subvention non plus n'a été accordée jusqu'à présent à l'association de Pétanque Sportive Lilloise. Considérant que cette association propose sur la commune autour de Pétanque, en fait, la CNG, il propose une subvention exceptionnelle de 150 euros qui servira principalement à la personne qui va tenir le graphique puisqu'ils se sont trouvés dans l'obligation de la réunion. Donc la dépense sera trouvée sur le compte 6574 et sera traitée au même compte du budget communal. Est-ce que vous avez des questions?
Pourquoi elle a demandé pas de dossier, ça? Je n'ai rien, donc je
m'en fous. C'est quoi cette...
Pourquoi elle a demandé ça?
Alors c'est une question à la fois.
Elle sert à quoi exactement?
C'est une association pétanque. C'est la pétanque.
À quoi sert
la pétanque?
Par rapport à l'ASB.
Ah, c'est la
plaque. Alors attention, c'est pas du tout la chose, pas confondre le sport boule, donc la boule lyonnaise et la plaque. De nous faire des ennemis sur la
Marseille.
C'est Marseille.
Voilà. Pourquoi est-ce qu'ils ont demandé si tard? En fait, ils l'ont demandé tôt, mais ils n'ont pas formalisé leur demande comme le genre avait spécifié. Donc, après l'université de Lens, on a fini par proposer ça avant la fin de l'année. On a été sollicité par rapport à ça. On avait discuté en juin au moment de la commission. Ils ne se sont pas manifestés. Ça, je vous le suggère lancer en disant voilà, vous voulez ces subventions, c'est important pour vous. Vous avez vu les comptes qui sont à 250 euros au niveau de.
J'ai pas vu les comptes, ils sont à 250 euros sur le compte courant, mais ils ont une trésorerie de 3531 euros.
Les annonces sont en 2007. Voilà, les annonces sont trésorerie.
Non, sur le compte que vous m'avez envoyé, il y a 3531 euros de placés sur un livret. Donc.
Qui gagne un peu sur la mesure,
effectivement. En octobre ou novembre 2018, ils avaient ces 3531 euros, plus 250 sur le compte courant. Donc je pense que.
Alors, c'est une association, vous m'avez expliqué.
Ouais. C'est pour la remercier, vous donnez 150 euros pour la remercier.
Pour les accompagner, effectivement, sur cette action.
Le siège social, il est où? Parce que je n'ai pas vu le. Sur le document.
C'est une association qui a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé.
Non, je ne sais pas, le siège social, à ma connaissance, c'est pas bien.
Elle a beaucoup changé ces dernières années.
Je n'ai pas relu les sièges
sociaux. À un moment donné, ils étaient à Pouchara, mais...
Non, c'est une bonne histoire. Je ne sais pas,
l'association, elle était au 130. Elle était au 130. L'association était au 130. Elle a toujours été au 130. Ensuite, elle a été sur Pouchara.
Et ils sont signés à l'air aussi.
Et elle a dû revenir sur Lyon.
Voilà, un passe notre dame. Merci.
Un quoi?
100 impasse Notre-Dame.
Donc ici.
Je
propose qu'on passe au vote. Qui est contre? Qui est contre? Donc 2. Qui s'abstient? 2.
Je propose de passer au point suivant. Adoption du programme de création de navigation et d'extension de la dette agricole et de l'enveloppe financière prévisionnelle pour sa réalisation. Je vais laisser la parole à la
Marche. Bien, donc il s'agit de la continuité de ce qui a déjà été discuté au niveau de la médiathèque et de son extension et de sa réhabilitation. Il s'agit d'adopter le nouveau programme établi à partir et avec le concours du CAE 31, donc pour une opération financière, une enveloppe financière prévisionnelle de 580 000 euros hors taxe. Voilà. Vous avez les détails de cette opération. Il y a dedans 505 000 euros affectés aux travaux et 85 000 euros alloués aux prestations de services nécessaires à la réalisation de l'opération, donc à savoir bureau d'études, bureau thermique et sondage pour les sols, tout ce qui permettra de faire en sorte de faire ce bâtiment correctement et de rénover ce bâtiment correctement. Donc il est demandé au conseil municipal d'adopter le programme de l'opération de réhabilitation d'extension, d'approuver le montant de la enveloppe financière prévisionnelle pour la réalisation de ce programme arrêté à 580 000 euros hors taxe, d'approuver le recours à une procédure adaptée restreinte avec remise de prestations relevant de l'élément de mission esquisse pour la désignation du maître d'œuvre de l'opération, de fixer à 2500 euros le montant de la prime qui sera versée aux trois équipes sélectionnées pour la remise des prestations et de décider de l'inscription des crédits nécessaires à l'opération de réhabilitation et d'extension de la médiathèque municipale au budget 2019.
Est-ce que vous avez des questions?
Alors, si j'ai bien compris, hein, vous allez faire... C'est un genre de concours pour la maîtrise d'œuvre, c'est ça?
C'est pas un genre, c'est un concours.
Non?
C'est ça.
Mais je parle, madame a dit non.
C'est une remise de prestation.
Oui, mais c'est la forme.
Non, le concours, c'est quand on est en procédure formalisée.
Voilà. Mais là, vous en choisissez que trois.
Non.
Et aux trois, vous proposez d'offrir une prime.
Non, en fait, on n'en a pas trois.
Oui,
mais.
Il n'y en a que trois qui proposeront
enfin,
leur
offre. Exactement deux, puisqu'il y en a un qu'on va
celui
retenir.
Que vous allez choisir sera un parmi ces trois.
Exactement.
Voilà.
C'est bien ça.
Oui.
Et vous proposez donc 2500 euros à chacun pour effectuer une esquisse.
C'est ça.
Oui.
C'est ça.
Oui.
Donc actuellement, les travaux, c'est pour voir si j'ai bien compris, ont été chiffrés par le CAUE.
C'est ça.
Oui.
D'accord.
Et c'était un projet que vous avez déjà présenté, puisqu'on avait demandé une subvention et notamment la dotation de soutien à l'investissement local qu'on a eu à hauteur de 46% sur ce projet.
Alors, j'aimerais savoir quel est l'avantage pour la mairie de payer trois fois 2500 euros au lieu de faire
ça,
une procédure normale.
Ce sera que deux fois, puisqu'en fait, celui qui sera retenu, ce sera
la déduction.
Ce sera la déduction, exactement.
Et ça fait quand même 5000 euros de pas perdu,
tout à fait.
Pratiquement perdu.
Exactement, tout à fait.
Par rapport à une procédure normale d'appel
d'offres. Ça permet en fait de pouvoir avoir un élément objectif sur le projet et de pouvoir décider justement sur le projet de proposition, la réalisation du projet que l'on souhaite.
Oui, mais si vous faites un appel d'offres en procédure normale, comme ça se fait d'habitude, vous allez avoir plusieurs archives qui vont proposer, c'est pareil.
Mais en fait, souvent dans les appels d'offres, vous avez comme élément, l'esquisse, c'est un élément financier et un élément technique. Et en fait, sur la réalisation du projet, vous ne pouvez pas voir si vous vous entendez avec quelque chose de.
Voilà, parce que ce qu'on vous a fait esquisse, c'est pratiquement un avant-projet.
Exact. Oui.
C'est plus complet que.
On va s'en rapprocher.
Voilà.
Ça va être une œuvre architecturale, ça va être quoi, cette médiathèque? Ça va être quoi?
Alors, c'est pas une œuvre architecturale, il y a plusieurs choses.
Il y a
la façade, l'architecture, elle disait, j'avais déjà vu la façade, il y a la question de l'arrière de la médiathèque, savoir comment on traite aussi la médiathèque, l'extension. Donc, il y a quand même plusieurs questions, c'est pas juste les coquilles.
Et comment, j'aimerais savoir comment vous avez fixé à 2 500 € le montant des primes.
Ça se calcule sur la base de ce qui se pratique pour le concours d'architecte. En fait, on s'est calé avec les services du CAE sur ce qui se pratique. Donc,
c'est normalement,
on prend un pourcentage des travaux.
C'est le montant des travaux, en fait, de la valeur de l'étude.
Oui.
En gros, moins 20%.
Non, on prend le montant des travaux, on applique un pourcentage. Je pourrais vous donner la formule si vous voulez. C'était très
simple. Et là, on tombe à 2005.
On tombe à 2 500 €.
D'accord.
Alors, parce que l'élément esquisse, c'est un élément de tout début de prestation. Donc,
oui,
on applique un pourcentage très réduit sur le montant prétendument obtenu de la mission d'architecte.
Donc là, le CAE a fait déjà une étude assez complète. Hein. Vous allez avoir l'étude dont l'archi qui sera retenue. Enfin, trois études.
En fait, c'est pas tellement que c'est ce qui peut te permettre de décider le moyen archi qui sera adapté.
Voilà. Et vous allez avoir trois autres, vous en choisirez un. Alors, je voulais savoir ce que devient le projet qui a été fait par Blois, puisqu'il a déjà fait l'esquisse complète. Qu'on a payé 5 700 €.
Celui-là a servi à élaborer. D'abord, à nous donner une enveloppe financière, une première enveloppe financière, pour pouvoir déposer un dossier auprès des services de l'État pour toucher une première subvention, déjà. Donc, puisque vous ne pouvez toucher ce type de subvention qu'avec un dossier complet.
D'accord, mais il a déjà fait une esquisse.
Oui, il avait fait une esquisse, etc. Mais il n'est pas dit que les cabinets d'architectes qui se présenteront reprennent du tout cette esquisse-là.
Et comment vous allez d'ailleurs. On voit pas pourquoi il reprendrait l'esquisse de notre architecte. Attendez,
Madame, oui, ils feront ce qu'ils voudront. Les architectes vont nous faire une proposition. Et en attendant ces propositions, pour juger.
Ça
permet, si vous permettez, par rapport à un système traditionnel, si vous voulez, quand vous retenez une maîtrise d'œuvre, vous la retenez sur ses références. Les candidats se présentent, ils vous disent qu'ils ont fait une médiathèque à Caserne, je ne sais où.
Oui, en fait, ils estiment quand même le
voilà.
Marché.
Donc, oui, mais ça fait une première chose. Mais l'étape, si vous voulez, qui nous paraît assez intéressante et cruciale, et avoir un choix relativement orienté, c'est d'avoir cette esquisse. Parce que vous êtes justement, vous l'avez dit, l'esquisse, elle se passe juste avant l'avant-projet. Donc, on oriente déjà le projet. Et dès qu'on aura sélectionné l'équipe d'architectes, parce que non seulement on demande un architecte, mais on demande un bureau d'études accompagnant. Donc, il y a derrière une équipe classique.
Ce qui est logique. Sauf que M. Blois, il ne pourra pas.
Logique, mais quand vous retenez un cabinet d'architectes, il n'est pas obligé de s'engager en disant je vais prendre un bureau d'études derrière. Absolument pas.
Mais vous, c'est vous qui le prenez, c'est pas lui. C'est vous qui prenez le bureau d'études, c'est pas l'architecte.
Ça sera un groupement conjoint.
Il va venir en soutien, c'est tout.
Ça sera un groupement conjoint.
Oui, ce sera un groupement.
Alors, la question, Mme Montaud, les choix de droit sont faits sur plusieurs critères, les références.
Excusez-moi. C'est, vous allez lancer un appel à. Un appel de. Mais il y aura plusieurs offres. Juste vous en recevez
les trois, ça va se faire sur plusieurs critères, les références, la composition de l'équipe, est-ce qu'il y a un investissement, toutes ces questions, les critères objectifs qui pourront déterminer notre choix.
Et le montant a été chiffré par le CAE. Oui. Et est-ce qu'il collait au montant de l'esquisse de Blois ou pas?
Pardon.
Est-ce que ça collait avec les montants de Blois?
Mais c'est exact. Enfin, ils sont retombés sur des montants similaires. Les mêmes, tout à fait. C'est pas tout à fait la même prestation qu'avait prévu le Blois, mais on reste dans l'enveloppe. Donc, c'était aussi le but initial. Hein. Il faut, même si c'est le CAUE, à un moment donné, il faut leur dire qu'on ne va pas mettre 3 millions d'euros sur cette opération.
Et est-ce que M. Blois pourra candidater parmi les trois?
Non.
Il ne candidatera pas. Il serait déjà en porte-à-faux par rapport au fait d'avoir fait une première étude et avoir devancé tous les autres candidats. Donc, non.
Donc l'esquisse de M. Blohorn,
Monsieur Blohorn a été retenu pour faire une étude préalable à la projet.
Et ça va servir à rien si on est prêt sur une seule subvention 46% de subvention du projet. Et on a donné d'autres subventions.
satisfaction avec la proposition, l'estimation du CAUE. Pareil. Et les architectes du CAUE peuvent très bien accompagner un tel projet.
Là, il y a un cumul d'interventions, c'est-à-dire il y a le CAUE, ensuite il y a M. Blohorn, et maintenant il va y avoir un concours d'architectes. Alors que...
Vous pouvez vous exprimer sur le vote des accords, je propose de passer au vote contre.
Oui, bien sûr que non.
Quatre contre, abstention.
Non, mais je voudrais rajouter quelque chose, s'il vous plaît, tu vas finir de parler. L'article 2 de la loi du 12 juillet 1985, qui est cité dans la note de synthèse, à la plupart de ces articles de loi qui ont été abrogés aujourd'hui, le 12 décembre. Alors, je pense qu'on ne peut pas trop se référer à cette loi. Voilà. Donc, je vote contre.
Très bien. Bonjour. Merci. Je vous passe au point 13, recrutement d'agents contractuels sur des emplois non permanents, point 13, par un point saisonnier d'activité. Donc, on vous propose de procéder à la création de deux postes d'agents techniques entre 25 et 35 heures, sachant que ce sont des recrutements d'agents contractuels sur une période maximale de 6 mois, allant du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Vous avez des questions?
On voudrait savoir quand est-ce qu'on aura une réunion de la commission des personnels pour savoir qui occupe les postes qui ont été créés depuis 2 ans ou 3 ailleurs, en particulier les postes de rédacteurs, etc., avec les fiches de poste, avec le tableau de la masse salariale, etc. Les élus de l'opposition ont le droit de savoir qui fonctionne à Rion, sur quel poste et comment. Voilà. Donc ça fait X temps qu'on le demande. Apparemment, on ne peut pas nous le donner.
Alors, vraiment, on vous transmet à chaque fois l'ensemble du tableau.
C'est faux, Madame le Maire. Ne racontez pas des mensonges.
Non, c'est faux, et je
vous porterai tous les mails que vous avez adressés. Et je vous montrerai tous les mails. Oui, ne vous esquivez pas comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile.
Je vous passer au vote. Contre 4 contre, abstention. Approuvé, je vous remercie. Point 14. Conclusion d'un bail éducatif avec la ferme du Paradis. Donc, toujours sur le même sujet, qui est suivi depuis plusieurs mois maintenant. Donc, on vous propose de conclure sur les mêmes critères que le PACA, un bail éducatif avec la ferme du Paradis sur une durée de 40 ans, avec M. Moreau, qui est dirigeant de la ferme du Paradis pour un loyer mensuel de 50 euros. C'est exactement sur les mêmes critères financiers et donc, on s'est calé sur ce qui était déjà existant.
Vous dites que vous calquez sur ce que paye TEPACA. Or, on avait voté pour une réévaluation du loyer de TEPACA, en 2016, je crois, à peu près. Et il n'a jamais été réévalué. Vous payez toujours la même somme. À 150 euros, mais vous ne payez pas 150 euros.
Si, vous l'avez fait remarquer il y a quelques temps, mais parce que ça n'avait pas encore signé le bail. Ça avait mis quelques temps pour pouvoir le signer la GFC, mais maintenant, normalement, vous payez la somme.
Vous l'avez signé quand, madame le maire, le bail?
Oh, ça s'est récemment, il y a quelques mois. J'ai vu la date exacte, mais je pense que c'était fin d'été ou septembre.
À la fin de l'été. Donc, tu n'es pas capable de continuer à payer le même loyer. Je suis désolée. Donc là, vous voyez, donc on vous l'a demandé, ce bail de TEPACA, on ne l'a jamais eu. On vous a demandé d'autres choses sur la ferme du Paradis, on ne l'a jamais eu. Il y a un recours sur la ferme du Paradis, vous le savez. Il y a un recours, vous devriez informer.
Vous avez proposé de recevoir un
recours. Voilà, tout à fait, mais bon,
après. Et je pense que vous n'allez pas même pas chercher les recommandés.
Après, oui, mais je le savais. Ça va revenir à la mairie, c'est le même que monsieur Solana. Bien sûr que si, que je le sais.
Bien sûr que oui,
mais ça m'est égal. De toute façon, il n'avait aucune valeur. Le papier que vous m'avez envoyé pour dire qu'on a vu jusqu'au 12 janvier n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien. Alors, ce n'est pas la peine d'aller le chercher à la mairie. Ça ne sert à rien. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on a exercé un recours gracieux. Vous avez refusé ce recours gracieux le matin et l'après-midi. On nous convoque à une réunion le lendemain, ça sert à quoi?
Non, on vous propose un rendez-vous pour échanger, parce que visiblement, si vous estimez qu'il faut faire un recours contre ce projet, alors qu'il a été voté à l'unanimité, vos voix comprises, quand on a proposé de déplacer dans le paradis de quelques mètres...
C'était pas dans les mêmes conditions du tout.
Ça va certainement le terrain.
répondra peut-être, c'est un juge qui le jugera. Et c'est pas la peine de lui couper la parole, parce que je remets le micro.
Apaisé, parce que malgré tout, il y a une question de développement du territoire, je prends ce projet. Et c'est une communauté en contentieux, comme on essaie de le faire à chaque fois, et espérer de pouvoir aboutir sur ce projet.
Quelle est la situation de M. Moreau? Qu'est-ce que c'est, cette ferme du paradis? Est-ce qu'il a le ciré?
Mais oui, il a tout ce qu'il faut. Après, ce qu'on vous a proposé, et en plus, vous avez eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il y avait l'enquête publique, c'est de vous rapprocher sur ces éléments-là. Mais il a toutes les choses en règle.
C'est une entreprise de quel type qu'il a?
C'est une entreprise agricole.
Donc c'est pas un parc animalier.
C'est pas un parc animalier.
Voilà, c'est pas un parc animalier.
Mais il peut faire
le et non.
Une ferme pédagogique, une ferme agricole, une ferme pédagogique. Vous voyez sur d'autres fermes agricoles. Et ce qui m'étonne, malgré tout, c'est que vous vous insurgez sur ce projet-là, alors que même quand vous étiez élu, vous le portiez, vous n'avez jamais demandé à cet entrepreneur de le fermer. J'ai beaucoup de mal, je vous avoue beaucoup de mal à comprendre cet acharnement contre un projet qui amène à la fois de l'attractivité, qui est complémentaire. J'ai du mal à comprendre ça, qui peut apporter un rayonnement pour la commune. On a déjà du mal à faire venir des activités économiques sur notre territoire. Si c'est en plus pour accabler et empêcher les activités que l'on a et les enfoncer, j'ai vraiment du mal à comprendre ça. On a une super zone d'attractivité touristique sur notre territoire, qui est la forêt. On a TEPACA, qui est pour les enfants et les de 7 ans à 70 ans. Mais si, il y a un problème sur la vision du développement de notre territoire et sur l'accompagnement de ces projets.
Vous sacrifiez 3 hectares de la forêt, un parc.
C'est enclavé entre des habitations, une salle communale et des bacs de
l'activité. Donc la politique économique sur la commune, elle n'a jamais été faite. Venez pas me dire
que ça tout le monde
20 000 visiteurs par an.
Ça vous rapporte combien ici à la commune? Ça rapporte combien à la commune?
Mais alors je ne sais pas, il faudrait aller voir les gens qui savent.
40 euros par mois.
Mais la commune, je pense qu'il faut être étriqué à ce point-là et regarder comment
on fait.
Quand on arrive à avoir une visibilité grâce à des bacs, que les gens connaissent rien quand vous leur dites, mais non, c'est là où il y a des bacs. Ah oui, je prends au sérieux. Quand les gens vont s'arrêter pour aller à TEPACA acheter une bouteille d'eau chez un commerce, est-ce que ça c'est quantifiable pour la commune? Je pense que c'est notre rôle d'amener les gens sur la commune et qu'ils viennent consommer.
Alors madame le maire, puisque vous parlez et que c'est enregistré, j'ai le droit de parler aussi.
Parce que ce
que vous dites est enregistré, donc j'ai le droit d'être enregistré aussi.
Bon,
j'ai été maire avant vous, tout le monde a toujours dit, c'est trop loin, c'est à 2 km, TEPACA, les gens passent, traversent le village et ne s'arrêtent pas. Ça a été une première chose. Ceci étant, TEPACA est une entreprise à laquelle je tire mon chapeau. Voilà. Ça, c'est sûr. La deuxième chose, c'est que M. Moreau, pour ne pas le citer, lui, il a construit sa ferme en demandant des sorties, etc. Mais il ne s'est pas mis dans la légalité avec la mairie et avec les services de la DDT pour créer son entreprise. C'est tout ce qu'on reproche et on vous demande, apportez-nous la preuve qu'il avait, que son entreprise avait une existence juridique légale en 2009. Voilà, parce que son entreprise, ce n'est pas une ferme.
Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que l'entreprise a une existence légale. Votre travail qui n'a pas été fait en 2009, je pense que vous pouvez en prendre la responsabilité. Aujourd'hui, son existence est légale.
C'est ça.
Donc, acharnez-vous sur ce projet.
Attendez, laissez-moi vous répondre, quand même, sur ma responsabilité. Quand j'ai demandé à M. Chaume de se mettre au clair, tout le monde m'est rentré dedans, vous la première. Hein? Et aujourd'hui, on vient me dire, parce que le gars de là-bas, il n'a pas mis son aménagement comme ça. Je suis désolée. Alors, je vais vous raconter autre chose.
Si,
je vais vous raconter autre chose. Excusez-moi.
Est-ce qu'on peut passer au vote et vous pouvez voir?
Oui. En 2009, quand M. Moreau s'est installé là-bas, M. Bua était en train de mourir. Il était adjoint à l'urbanisme dans la commune de Riem. On avait autre chose à penser, si vous voulez le savoir.
Le loyer de TEPACA, à l'heure actuelle, il n'est pas de 50 euros.
Non, mais ils ont plus de 50 euros. On a fait une par rapport à TEPACA.
D'accord. Donc, j'aimerais savoir pourquoi faire un bail emphytéotique maintenant, puisqu'on avait fait une
convention. On ne signera pas. On ne signera pas tant que tout sera pas acté pour qu'il puisse exploiter.
Donc, il faut qu'il dépose un permis d'aménager.
Il faut qu'il y ait des autorisations, clairement, soit terminées, et une fois que ce sera ça, on pourra, si c'est juste qu'on ne puisse pas être bloqué pour ça, pour qu'il puisse peut-être, une fois que si tout arrive au bout,
pour l'instant, ils n'ont rien déposé.
Si, ils ont fait toutes les marches. Toutes les marches, en fait. Parce que les roues, enfin, t'amènes quand même une structure.
Est-ce qu'il est accordé le permis d'aménager ?
Non, il sera bien peut-être déposé.
Il est déposé.
Et donc, on ne peut pas attendre pour signer le bail emphytéotique que
mais
le permis
c'est
de...
C'est très utile, madame, c'est ce que je viens de dire. Je dis juste que là, je demande si vous autorisez dans ces conditions.
Pourquoi elle est obligée de le voter ? Pourquoi elle est obligée de le voter ?
Madame, parce que je vous soumets. Je vous demande aujourd'hui de voter ça. Je vous dis juste que je ne signerai pas tant que toutes les autorisations ne seront pas accordées. Et pour autant, j'estime qu'il est de notre devoir d'anticiper. Si jamais il n'a pas les autorisations, si jamais ça dure trop et qu'il décide de faire bouger, bien évidemment, on ne signera pas ce bail emphytéotique.
Moi, je préférerais attendre qu'il ait toutes les autorisations et d'année.
Ce sera bien de la signature. Ouais. Mais aujourd'hui, je souhaite qu'on avance.
Et quand on sera au dans un recours devant le tribunal, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez continuer ?
Mais madame, plutôt que de gagner du temps à essayer vraiment ce que vous voulez dire. Donc, si vous souhaitez aller à toi dans le recours, allez-y.
Ben, c'est mon droit, je ne suis pas obligée de vous le dire aujourd'hui. J'ai un délai pour faire un recours.
Évidemment. Donc, je vous propose de passer au vote, ce que j'entends vos remarques. Contre, 4 contre, abstention, approuvé, je vous remercie.
Nous, on a chargé la main des deux ici.
Est-ce que vous pourriez m'envoyer le bail que vous avez signé en septembre avec des parcours
comme ça ? Oui, mais dès qu'on l'aura, parce que pour le moment, le notaire ne l'a pas transmis.
D'accord.
Après, juste vous dire qu'il y avait deux questions diverses que vous avez mis à l'heure du jour. On a été saisi d'une demande de droit de chasse sur. Qui appartient à la ville de Rennes sur la page. Je vais vous dire que l'on est utilisé cette demande et vous ne comprenez pas les détails à ce moment-là. Et enfin, sur un dernier point, sur un aménagement d'un tiers-lieu, on regarde pour pouvoir aménager quelques bureaux pour permettre du télétravail sur la commune.
Tout ça.
Ce sera juste en face des bureaux dont ils sont occupés par le CIO. Au-dessus de la passation.
Oui. Des bureaux pour la commune et la place d'appartement ?
Non, pas pour la commune. Et pas forcément l'appartement. C'est pour le télétravail. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont vu forcément les placements, maisons, domicile, bureaux, domicile, utile, bureaux, et qui essayent de trouver sur leur lieu d'habitation des lieux extérieurs à la maison pour pouvoir travailler et éviter ces déplacements pendulaires. Voilà. Et donc, de plus en plus de collectivités proposent ces lieux-là. Parce que ça a plusieurs objectifs, ça permet d'attirer des gens qui sont en situation d'emploi sur la commune, parce qu'ils vont se dire qu'il faut moins de distance pour aller à leur bureau, et aussi de capter des gens qui vont consommer sur place. Voilà. Plutôt que d'aller sur leur trajet à porter sur les grandes surfaces. Voilà, c'est juste assez d'informations pour dire qu'on est ça en projet et qu'on y travaille.
Moi, je voudrais poser une question sur les compteurs Linky. Qu'est-ce qu'on fait ? Que doit
faire
les
agents ?
Hein ?
Ce que vous faites ?
C'est-à-dire ?
Dire que vous ne souhaitez pas quand ils vous relancent. Aujourd'hui, ils ont dit qu'ils avaient stoppé l'installation.
Oui. Là, actuellement, il y a eu deux procédures.
Madame, vous avez déjà dit
oui, il y a eu deux recours.
Vous pouvez chaque fois faire des gros débats, de même que vous nous envoyez les 600.
Alors envoyez-moi le jugement.
Mais je crois que je comprenne. Sur internet. Il est sur le site
internet. Je ne le dis pas. Le problème, c'est qu'on est obligé d'aller sur le site internet, comme tous les administrés de la commune, parce qu'on n'a pas d'autres.
Je pense qu'on peut régulièrement parler.
D'autres points de chute. Le problème, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Madame le maire, moi, je
et on vous a envoyé un jugement après.
Qu'est-ce qu'on fait là ? Vous m'envoyez un mail pour me dire ce que je dois faire. Je peux refuser le compteur ?
Mais madame, je n'ai pas besoin de vous envoyer un mail là-dessus, il y a eu un arrêté. Je pense que jusqu'à maintenant, vous avez dû me refuser et vous ne l'avez pas installé, visiblement.
Non, on m'a appelé une fois au téléphone et puis là, le 16 novembre, tout d'un coup, j'ai eu une lettre en me disant « On vous a écrit plusieurs fois, c'est pas vrai. » Et là, ce n'était pas des lettres recommandées. Moi, la vôtre, je ne vais pas la chercher, mais je sais laquelle. Moi, la garderai à la mairie, je sais ce qu'il y a dedans. Voilà. Et on me dit, à midi, à 10h20, là où je lis, on vient relever le compteur le 14. Soyez là, parce que sinon, on va vous facturer la... Or, moi, le compteur, il a été relevé au mois de juillet. Je ne vois pas pourquoi ils viennent le relever maintenant.
Ça, c'est encore un autre sujet.
Ils viennent tous les jours.
J'ai déjà répondu à vos questions sur ce sujet. Et donc, je vous propose de lever la
Non, mais moi, j'ai une autre question, madame le maire.
Excusez-moi.
pour l'épave, toujours rien. Pour l'épave, le Conseil d'État, toujours rien.
Toujours rien.
Moi, je ne comprends pas pour l'épave ce qui se passe. Est-ce qu'on peut venir... Est-ce qu'on peut venir visiter ce dossier?
Mais là, la réponse est ouverte. Vous dites juste les horaires, je regarde les liens comme à chaque fois, pour qu'on puisse préparer le dossier et vous mettre dans une salle. Mais après, il n'y a aucun souci.
Mais je l'ai demandé 10 fois. Je remercie, je vais venir.
On avait demandé aussi un rendez-vous.
Moi, je voulais
proposer un rendez-vous au sujet de l'EHPAD en septembre, je crois que c'était.
Oui, et normalement, j'ai proposé d'autres rendez-vous puisque j'ai
non.
Moi, je voulais juste demander quelque chose. Est-ce que si la partie adverse ne répond pas, ça veut dire que peut-être elle ne va pas répondre. On ne va pas attendre ad vitam aeternam pour avoir une réunion. Si elle dépasse le délai pour répondre, je suis au Conseil d'État de
Paris. Vous avez proposé un rendez-vous sur les balles, vous n'aviez pas fait à ce moment-là. Ah, mais là, on a un nouveau rendez-vous et on parlera de ça, on épilogera sur qu'est-ce que fait l'opposition ou pas dans cette partie-là. Mais il y a des procédures légales, de toute façon, qu'il faut respecter.
Oui, non, mais une phrase, c'est tout, pour terminer. S'ils ne viennent pas et s'ils n'ont pas répondu dans les délais, est-ce que le Conseil d'État ne peut pas juger que la commune a gagné?
Ça se non. Et là, est-ce que ça ne se juge pas comme ça? Souvent, il y a un délai qui est donné en plus quand la partie n'a pas rendu son mémoire. Après, une fois qu'il y a une défaillance, il faut qu'on constate avant d'un certain moment qu'il y a une défaillance. Mais souvent, c'est un délai supplémentaire. Alors, le Conseil d'État, je vous avoue, je ne le connais pas spécifiquement parce que c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Je sais que dans les autres procédures, souvent, quand la partie est défaillante, on laisse un délai y répondre. Voilà, j'imagine que le Conseil d'État, c'est la même chose, mais s'ils étaient défaillants pendant trop longtemps, évidemment que le Conseil d'État arbitrerait avec les éléments qui
manquent. Oui, parce que si on peut répondre,
je vous propose de la séance et qu'on en parlera ça, je vais vous proposer un